bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé vendredi dernier les mandats de la MONUSCO jusqu'au 20 décembre 2021. Dans son volet politique, le Conseil de sécurité se félicite de diverses initiatives prises par le chef de l'État Félix Tshisekedi, notamment celle de favoriser la réconciliation nationale, la paix et la stabilité du pays. Le Conseil assigne à la mission des priorités stratégiques, à savoir la protection des civils et l'appui à la stabilisation, au renforcement des institutions de l'État et aux principales réformes de la gouvernance et de la sécurité, et proroge les principes convenus régissant les opérations de maintien de la paix et de sa brigade d'intervention. Quelle lecture faire de cette énième prorogation du mandat de la MONUSCO en RDC? Et quel appui la RDC peut-elle attendre de la MONUSCO pour rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble de son territoire? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous recevons dans cette émission M. Mathias Gilman. Il est porte-parole de la MONUSCO. Bonsoir Mathias Gilman.
Bonsoir.
Maître Juvenal Mounoubo Moubi, député national élu de Walika, le Nord Kivu. Il est cadre de l'UNC et rapporteur de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Bonsoir Maître Juvenal Mounoubo Moubi.
Bonsoir Monsieur Guy et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Et Maître Omar Kavota, vice-président du conseil d'administration de l'ONG Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, en sigle. Maître Omar Kavota, bonsoir.
Bonsoir Monsieur Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs et les collaborateurs avec qui nous serons dans cette émission.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le Conseil de sécurité a abordé également les volets concernant les groupes armés, notamment dans l'est du pays. Il proroge les mandats de la brigade d'intervention tout en condamnant fermement les exactions commises par les groupes armés encore actifs. Voyons ce condensé avec Gabriel Ouaménia.
Le Conseil de sécurité a condamné fermement tous les groupes armés opérant en République démocratique du Congo et les violations du droit international humanitaire ainsi que les atteintes aux droits de la personne qu'ils commettent. Le Conseil a réaffirmé sa condamnation des actes de violence observés en République démocratique du Congo, notamment les attaques contre la population civile, les personnels des Nations Unies et les travailleurs humanitaires ainsi que les installations médicales. Dans cette même résolution, les pays membres ont fermement condamné d'autres actes barbares tels que les exécutions sommaires, les atteintes à l'intégrité physique, les violences sexuelles et les violences fondées sur le genre, les recrutements, l'utilisation et l'enlèvement d'enfants et des membres du personnel humanitaire, ainsi que les attaques visant les écoles et les hôpitaux que commettent ces groupes armés et les milices locales en violation du droit international. Le Conseil a finalement réaffirmé sa volonté de voir les auteurs de tels actes répondre devant les juridictions compétente.
Merci à vous, Gabriel Ouaménia. Mathias Gilman, je rappelle que vous êtes porte-parole de la MONUSCO. Comment vous analysez cette décision du Conseil de sécurité de proroger le mandat de la MONUSCO?
Écoutez, le Conseil de sécurité a effectivement renouvelé sa confiance dans la mission autour de ses deux priorités stratégiques principales, c'est-à-dire d'un côté la protection des civils par des opérations militaires, mais pas seulement, avec aussi un volet civil et de réconciliation communautaire. Et le deuxième axe, le renforcement des institutions de l'État, parce que nous pensons, et le Conseil a soutenu cette vision, que le rétablissement de l'autorité de l'État sur la totalité du territoire, c'est la condition pour une paix durable. Au-delà des opérations militaires, nous avons besoin de justice, de police et d'une armée qui soit présente sur tout le territoire pour pouvoir stabiliser le Congo. La principale addition, je dirais, au mandat, c'est le soutien à notre stratégie de retrait progressif, durable et responsable du Congo, c'est-à-dire la fermeture à l'horizon juin 2021 de nos bureaux au Kasaï, la fermeture éventuelle, selon l'évolution de la situation sur le terrain, au Tanganyika en 2022, et cela va nous permettre de recentrer nos efforts, nos moyens, nos opérations sur les trois provinces qui sont les plus touchées par le conflit et où le conflit est le plus complexe et où les populations civiles souffrent le plus de la violence des groupes armés à la fois nationaux et étrangers. c'est-à-dire les deux Kivu, le nord Kivu, le sud Kivu, et la province de l'Ituri.
Voilà, vous avez rappelé ces priorités, ces deux priorités stratégiques, notamment la protection des civils, et tous les débats, c'est à ces niveaux. Quel est le sens que les Nations Unies donnent à ces concepts de protection des civils? Peut-on parler de la protection des civils quand des populations se font massacrer tous les jours à Beni, au nord Kivu et à Ituri?
Il y a évidemment des défis et personne ne cache que la MONUSCO et l'armée congolaise et la police congolaise rencontrent des difficultés à protéger la totalité de la population civile. Nous ne pourrons jamais avoir un casque bleu ou un soldat national ou un policier devant chaque maison des Congolais, notamment dans des régions qui sont difficiles d'accès. Donc pour nous, il est important, en plus des opérations militaires que nous soutenons, des opérations courageuses de l'armée congolaise en ce moment à l'est du pays, en plus de ces opérations militaires, il est important de comprendre que nous devons travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, au renforcement de l'autorité de l'État. Si à chaque fois que quelqu'un a un différend avec son voisin, il n'y a personne, il n'y a aucune autorité de l'État pour régler ce problème de manière pacifique, on va avoir tendance toujours à avoir des conflits. Les conflits ont des causes profondes et il faut s'attaquer également à ces causes profondes. C'est pour ça que nous travaillons avec la société civile, c'est pour ça que nous travaillons avec les autorités provinciales pour identifier ces causes profondes qui ont souvent trait à l'accès aux ressources, à l'accès à la terre. Et nous devons avoir des juges, nous devons avoir des policiers qui permettent à la population civile, lorsqu'il y a des problèmes, de se tourner vers une autorité étatique plutôt que vers une milice qui prétend les protéger mais qui en réalité vit sur leur dos et profite du chaos pour s'enrichir.
Voilà, donc vous venez de reconnaître que les FARDC ainsi que la MONUSCO rencontrent des difficultés quand il s'agit, n'est-ce pas, de protéger les populations civiles. Et ne pensez-vous pas qu'il faille faire une sorte d'évaluation de l'action des forces de la MONUSCO comme le souhaitent certaines ONG?
À chaque fois qu'on découvre un massacre, nous repensons comment nous pouvons faire mieux. Nous faisons ce que nous pouvons dans un contexte extrêmement complexe. Il y a eu une attaque avant-hier à Boulango, non loin de Beni, où encore 5 personnes ont été tuées. Ces personnes ont été tuées, comme souvent par les ADF, la nuit, dans le silence, à la machette, et les corps sont découverts au matin. Il y a aussi d'ailleurs un soldat congolais qui a perdu la vie. Donc nous mesurons tout le travail qui reste à faire pour pouvoir sécuriser la totalité des populations civiles. Mais encore une fois, on ne pourra pas mettre un casque bleu ou un soldat congolais devant chaque maison. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur les causes profondes. Il faut que la pression militaire continue de s'intensifier. Et nous travaillons de mieux en mieux avec l'armée congolaise. Nous l'aidons, comme vous le savez, sur le plan logistique, sur le plan stratégique, sur la planification des opérations. Nous leur donnons des informations que nous avons grâce à nos drones et nos équipements. Et nous allons bientôt commencer à construire des casernes. Nous avons déjà donné quelques bases au FARDC parce que pour avoir une présence plus forte des forces de sécurité, il faut à tout prix que l'armée congolaise puisse s'installer durablement dans les zones qu'elle libère des groupes armés ou dont elle a chassé les groupes armés. Vous le savez, en 2014 déjà, l'armée avait pris les positions principales des ADF, mais vu qu'ils n'étaient pas en mesure de tenir ces positions, finalement, les ADF ont pu se réinstaller. Donc c'est quelque chose qu'on essaye aujourd'hui de combattre. On a donné une de nos bases, Kimuliki, au FARDC, en nous donnant aussi des équipements, et nous allons commencer à construire des casernes pour s'inscrire vraiment dans la durée, parce que chasser les groupes armés, c'est une chose, mais ensuite tenir les positions et établir l'autorité de l'État sur le long terme, c'en est une autre, et on travaille là-dessus avec nos partenaires de l'armée congolaise.
Voilà, vous venez ici de rappeler que pendant les opérations, la MONUSCO donne des informations au FARDC grâce à ses drones ainsi que à ses renseignements. Mais comment vous comprenez que lorsque les FARDC accomplissent certains exploits, notamment en délogeant les rebelles des EDF de certains de leurs bastions, lorsque les FARDC publient des communiqués, dans ces communiqués, nulle part les FARDC ne mentionnent, n'est-ce pas, l'apport de la MONUSCO dans ces opérations. Et du coup, pour les Congolais lambda, pour les populations, n'est-ce pas, civiles, et qui attendent beaucoup de la part de la MONUSCO, et pour ces populations-là, la MONUSCO, elle est là en tourisme, la MONUSCO ne fait rien. Comment vous expliquez le fait que lorsque vos partenaires des FARDC publient des communiqués, ils ne mentionnent pas votre apport?
Bon, moi, j'ai entendu souvent les porte-paroles des FRDC dans la presse parler du soutien de la MONUSCO. Comme je vous le disais, on a eu des relations qui étaient parfois moins bonnes que celles que nous avons depuis les dernières années. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on se déplace sur le terrain et qu'on rencontre nos partenaires des FRDC, ils nous disent à quel point notre soutien est déterminant dans leurs opérations. Cela dit, on n'est pas là pour prendre le crédit de ce que les FRDC font. L'armée congolaise est la première responsable de la sécurité de sa population et de la protection des civils congolais. Et donc, on vient en appui, nous venons en partenaire de leurs efforts. Et ce sont eux qui sont en première ligne et ce sont eux qui ont besoin le plus du soutien de la population pour pouvoir tenir les positions et pour pouvoir réellement instaurer la paix et la stabilité. Pour la MONUSCO, ce qui est important que les gens comprennent, c'est que la MONUSCO n'est pas une force qui se balade au Nord Kivu et fait ce qu'elle a envie. La MONUSCO, elle est là en soutien à l'armée congolaise. Donc elle l'aide encore une fois à la planification, elle évacue les blessés des FRDC, elle aide à la stratégisation, à la planification des opérations et elle aide au partage des informations et elle aide également évidemment avec ses avions, ses hélicoptères à déployer les FRDC. La MONUSCO est un outil. C'est un outil à la disposition de l'armée congolaise et des autorités en général pour pouvoir être plus efficace. Vous le savez, une grande faiblesse de l'armée congolaise, c'est la logistique, ce sont les moyens de technique, d'armement et de transport. Et c'est ça que nous venons apporter, mais nous sommes vraiment là en appui. Et nous ne pensons pas que dire il faut moins de MONUSCO, il faut que la MONUSCO s'en aille, va permettre à l'armée congolaise d'être plus efficace. C'est exactement le contraire qui risque de se passer.
Voilà, vous ne pensez pas que tous les problèmes se posent à ce niveau, hein, lorsque l'on dit que la MONUSCO vient en appui au FRDC, alors que le Conseil de sécurité donne un mandat clair à la MONUSCO, précisément quand il s'agit de la protection des civils. Lorsque vous dites que la MONUSCO vient en appui, et que vous vous rendez compte que les civils sont menacés quelque part, est-ce que vous allez attendre que les FRDC vous demandent de réagir, ou alors vous prenez l'initiative sans pour autant attendre que les FRDC vous invitent à les appuyer?
Non, absolument pas. Nous, dans les opérations qui sont conduites par les FRDC, nous les soutenons de manière proactive, c'est-à-dire que dans la planification et dans la conduite de ces opérations, nous les soutenons. Mais il est évident que quand nous recevons des alertes par nos réseaux communautaires ou par nos partenaires, nous réagissons seuls ou avec les FRDC selon ce que la situation demande. Et je puis vous assurer que nous intervenons à chaque fois qu'on a l'information à temps. Il y a évidemment des progrès à faire là-dessus parce qu'il y a parfois une population qui hésite à lancer des alertes ou il y a parfois des problèmes logistiques simplement pour recevoir les informations. Mais évidemment, nous réagissons. Évidemment, il y a des attaques ou qui continuent et des gens qui meurent, mais il y a aussi énormément d'attaques que nous prévenons par notre présence. Et donc, il faut voir la totalité de ce que nous faisons, même si nous comprenons bien qu'il y a une émotion, une frustration et une colère chez les populations civiles qui continuent d'être attaquées. Mais il y a aussi beaucoup d'attaques qui sont repoussées. Et vous le savez, nous avons aussi perdu des soldats. Donc, évidemment, nous sommes sur le terrain, nous sommes avec la population et nous sommes ensemble. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que nous sommes ensemble avec la population et l'armée. Il y a un problème de confiance en général entre la population de ces provinces qui vivent dans le conflit depuis longtemps, à la fois avec leurs institutions nationales et avec nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous nous engageons à chaque fois aussi à travailler avec la société civile, à rencontrer la population pour essayer d'entendre leurs critiques et bien sûr travailler sur des solutions que nous pouvons apporter à leurs problèmes, toujours dans la limite des moyens que nous avons.
Merci. Maître Juvenal Mouloubou Moubi, député national élu de Walikale Nord Kivu. Vous êtes cadre de l'UNC et rapporteur de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Quelle lecture vous faites de cette prorogation du mandat de la MONUSCO en RDC par le Conseil de sécurité des Nations Unies?
Merci beaucoup pour l'invitation et salutations aux autres invités, M. Gilman et M. Kavota. C'était prévisible, un autre mandat de la MONUSCO. C'était prévisible, pourquoi? Parce que la situation sécuritaire sur terrain reste volatile. Il y a des morts chaque semaine, Et puis on ne comprend pas pourquoi il y a toujours des morts et pourtant il existe une armée, il existe une police et il existe ici au Congo la plus grande mission de maintien de la paix au monde. C'est vrai, il faut vraiment réfléchir sur ce qu'on appelle finalement protection civile. Et les populations n'ont pas tort aussi de s'interroger. Et à un moment donné, on se pose la question, est-ce que c'est toujours une mission d'observation? Est-ce que c'est une mission de maintien de la paix? Est-ce que c'est une mission d'imposition de la paix? La population se souvient de quelques exploits sous MONUSCO. Par exemple, la chute du M23 grâce à une collaboration étroite entre Kinshasa et New York. Il y a des cas comme ça et on voudrait vraiment que des expériences comme la guerre contre la M23 ou la chute du M23 puissent se répercuter. Il y a deux certitudes. La première certitude, et le porte-parole de la MONUSCO vient de le dire, c'est que la MONUSCO ne se substituera jamais à l'armée congolaise. La tâche de ramener la paix incombe avant tout au gouvernement congolais, et là je suis d'accord et nous devons tous en être d'accord. Mais il y a une autre certitude, c'est que la MONUSCO devra partir un jour. Il faut qu'on parle, et je crois que le moment est venu de parler du retrait progressif, mais il faut pour cela une feuille de route. Moi, je plaide en faveur d'une feuille de route à convenir entre les autorités du gouvernement de la RDC et les autorités des Nations Unies, donc et la MONUSCO. Et dans cette feuille de route, il doit y avoir nécessairement l'appui à la réforme du secteur de sécurité. Parce que lorsqu'on fait une évaluation des capacités d'action de nos FRDC, je suis patriote, nous sommes patriotes, mais nous devons être réalistes. C'est que notre armée n'a pas encore acquis des capacités requises quoi pour mener à bien cette mission de ramener la paix à l'Est. Le porte-parole de la MONUSCO vient de souligner un fait, c'est que c'est une guérilla, une guerre asymétrique, mais notre armée n'a pas de drones de surveillance, parce que les sanctuaires des ADF, que ce soit à Madina, à Mayangos et ailleurs, ont été démantelés, et là il faut féliciter les FRDC, mais le travail qui reste, c'est avoir des équipements modernes pour localiser, déceler les nouvelles caches des ADF. Et évidemment, je suis d'accord avec les porte-parole de la MONUSCO, améliorer les relations civilo-militaires. Un autre axe de travail, à part l'appui à la réforme du secteur de sécurité qui doit figurer nettement dans une feuille de route, à convenir entre Kinshasa et New York, il faut qu'il y ait également le DDR. On parle du DDR, il y a des groupes armés, des éléments des groupes armés qui sont même regroupés, les CODECO par exemple à Bunia, les FRPI, à Ituri, à Irumu, à Rumangabo, il y a aussi les éléments des NDC, mais on ne sait pas voir là où le programme DDR est mis en branle. Actuellement, on parle du DDR communautaire, stabilisation, et je crois que par rapport au DDR, la communauté internationale devrait convenir avec Kinshasa sur un programme avec des filières de réinsertion, et qu'on sache, voilà, les ex-combattants ont quitté telle brousse, ont été réinsérés dans la vie civile à tel endroit, et faire les suivis par rapport à tout cela. Autre chose, c'est l'appui au processus électoral. Les réformes par rapport aux élections à venir, à part la logistique. Parce que si la MONUSCO part brutalement, eh bien ça va être difficile de préparer les élections. La démocratie, c'est quand il y a des élections régulières. Il faut qu'il y ait des élections en 2023. Et la MONUSCO nous est souvent d'une grande utilité par rapport à la préparation des élections.
Et s'il vous était demandé d'évaluer l'action des forces de la MONUSCO en RDC, que diriez-vous, maître Juvenal Munubu?
Alors, le peu des cas où la MONUSCO a vraiment travaillé étroitement avec le gouvernement congolais, je parlais tantôt ici du front contre la M23, eh bien, il y a eu des résultats. Je me rappelle aussi de cette action louable où la M23 était parfois aux portes de la ville de Goma, parfois dans la ville même de Goma, mais avec la pression de la communauté internationale, la M23 s'était retirée. Alors des actions comme ça, des hauts faits d'armes comme ça sont dans l'actif de la MONUSCO, évidemment. Mais il y a des cas où on ne comprend pas, on tue des gens à Beni, dans la ville de Beni, sur les axes routiers, pas très loin des positions MONUSCO, pas très loin des FRDC aussi. Et donc, c'est ce qui fait à ce que le bilan de la MONUSCO soit finalement un bilan mitigé, controversé, et ils n'ont pas tort, ceux qui se lamentent, ceux qui se posent des questions si la MONUSCO a été vraiment efficace, parce que la toute première mission de maintien de la paix avec un budget colossal. Mais s'il faut rester objectif, il y a des cas. Il y a des cas, il y en a peut-être pas beaucoup, mais il y a des cas qu'il faut relever et à inscrire honnêtement dans l'actif de la MONUSCO.
On a l'impression qu'il y a eu beaucoup d'ambiguïté dans la collaboration entre la MONUSCO et les FRDC avec le régime passé. Maintenant qu'il y a un nouveau régime et que parmi les priorités que le Conseil de sécurité assigne à la MONUSCO, il y a l'appui à la stabilisation, au renforcement des institutions de l'État et aux principales réformes de la gouvernance et de la sécurité. À votre avis, quelle devrait être la nouvelle approche de la collaboration entre les FRDC et la MONUSCO pour que les opérations sur le terrain puissent cette fois-ci empêcher définitivement les massacres de populations civiles?
Oui, c'est vrai, il y a un nouveau régime, mais il n'y a pas eu forcément un nouveau gouvernement. Comme vous le savez, les gouvernements étaient encore celui du régime passé, du FCC. On attend alors là un nouveau gouvernement, des lignons sacrées qui arrivent. Mais quelle doit être la collaboration? Vous avez bien fait de déposer la question. Il faut une planification conjointe des opérations entre les FRDC et la MONUSCO. Comme ça, la MONUSCO y met la logistique. Les porte-parole parlaient de l'échange d'informations. Je suppose que ça devrait se consolider. Et puis, il faut qu'il y ait un système où les informations émanent de la société civile et que la population se sente assez libre, sans peur, de donner les informations aux FRDC et à la MONUSCO. Et que de ces informations, qu'on puisse monter des stratégies, concevoir des plans opérationnels pour réduire la menace armée, que ce soit des ADF ou des FDLR ou d'autres groupes armés. Donc, je parle ici des planifications des opérations conjointes. Moi, je ne sais pas s'il y a encore une planification des opérations conjointes ou ça relève d'un certain passé. Parce que moi, j'ai comme l'impression qu'il y a eu quand même assez de froid dans cette collaboration. Surtout qu'on se souvient qu'il y a des commandants qui étaient des officiers, donc, qui étaient accusés des violations des droits de l'homme. Et la communauté internationale avait posé ça comme un préalable pour une très très bonne collaboration avec Kinshasa. Ça, on se souvient. Et à un moment donné, il y a eu une collaboration, je dirais, en temps des si.
Maître Général Mounoubou, au sujet de la planification, dans la nouvelle résolution, le Conseil de sécurité demande, ça c'est le point 18, demande que la FRDC et la MONUSCO mènent des opérations conjointes qui soient les fruits d'activités de planification conjointe et de coopération tactique conformément au mandat de la MONUSCO et à la politique de diligence voulue en matière des droits de l'homme. Voilà, donc je crois que par rapport à cet aspect des choses, le Conseil de sécurité, à travers cette nouvelle résolution, a essayé, n'est-ce pas, de clarifier les choses?
Oui, on espère. On espère qu'il n'y aura plus beaucoup de plaintes par rapport à la violation des droits de l'homme. Et je crois que là, il ne faut pas condamner les Nations Unies parce qu'on ne sait pas impliquer des officiers présumés auteurs des crimes. Ça ne rassure pas. Et même les populations censées ramener les informations, lorsqu'ils savent bien qu'ils amènent des informations à des commandants qui sont impliqués dans des crimes, eh bien, ça ne motive pas. Donc, moi, je crois que les règles de diligence doivent être impérativement respectées.
Merci.
Et il faut vraiment ces opérations conjointes et que ça porte des fruits et pas seulement se réunir, faire des réunions pour faire des réunions.
Merci, Maître Omar Kabota, vice-président du conseil d'administration de l'ONG Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, c'est pas donc un sigle. Le mandat de la MONUSCO prorogé, comment vous analysez cela?
Alors, je sais que le plus ardent de la plupart des Congolais, c'était de voir la MONUSCO partir de la RDC. Mais malheureusement, à chaque fois, les circonstances concourent à la pérennisation de cette mission onusienne. Et le réalisme aussi oblige. Vous savez, sortir ou faire sortir la MONUSCO, ça a une catastrophe après. Ça ne peut pas toujours jouer au bien-être de la population. Et je crois que à chaque occasion, le Conseil de sécurité de l'ONU se trouve face à cette réalité et s'oblige à proroger le mandat de la MONUSCO. Mais s'il faut revenir au volet stratégique qui caractérise le mandat accordé à la mission, à savoir la protection des civils et le renforcement de l'autorité de l'État ou l'accompagnement des institutions de la République, je crois que c'est au niveau de ces volets protection des civils que ça pose problème. Ça pose problème dans la mesure où, à l'est de la RDC, où on fait face aux groupes armés, aux mouvements terroristes. Mais maintenant, face à ces groupes de ces gens, est-ce que c'est en prorogeant le mandat de la MONUSCO d'une nouvelle année qu'on résout le problème de protection des civils. J'ai dit que ce serait pas le vrai palliatif. Il faudrait, au-delà de proroger les mandats de la MONUSCO, arriver à identifier le groupe qui menace en fait la sécurité, la paix des civils qu'il faut protéger et apporter une force qui répond à l'ampleur de la menace. Et c'est là donc que je pense qu'au-delà de proroger le mandat de la MONUSCO une nouvelle année, il faut reconfigurer ces forces pour que ces forces répondent à cet objectif qui est assigné à la mission, celui de protéger les civils. Il y a aussi ce qui s'observe malheureusement comme contexte, au-delà du contexte sécuritaire, c'est le contexte politique. Il s'observe malheureusement que pendant que nous, la population congolaise, nous, les citoyens lambda, lorsque nous voudrions que la MONUSCO se retire, nous créons encore une fois des conditions qui favorisent à ce que l'on ne puisse pas être à l'aise de décider du départ de la MONUSCO. Nous avons en fait souligné le contexte sécuritaire à l'est du pays où les groupes armés, le mouvement terroriste forage et les FARDC, la police, donc les instruments de la RDC ne sont pas à mesure de les indiquer, du moins jusqu'à maintenant. Il se crée aussi des conditions politiques qui ne rassurent pas pour qu'une mission de maintien de la paix, la sécurité, d'accompagnement des institutions se retire. Vous savez, avec tout ce qu'on observe maintenant comme agitation politique, comme incertitude, comme instabilité des institutions, on crée encore une fois des conditions favorables pour que la mission des Nations Unies réussisse.
Omar Kavuta. Omar Kavuta.
Oui.
Est-ce qu'il y a moyen de bouger un peu, hein? Votre ligne commence à se détériorer. Et vous avez dit que la protection des civils pose problème. Vous avez suivi M. Mathias Gilman, le porte-parole de la MONUSCO, qui affirme qu'il est difficile de mettre un policier ou un militaire derrière chaque citoyen. Et c'est pourquoi il faudrait s'attaquer aux causes du problème. Et parmi ces causes-là, il y a cette absence de l'autorité de l'État. Et c'est pourquoi la MONUSCO est en train, n'est-ce pas, de travailler pour le rétablissement, justement, de cette autorité de l'État. Et comment vous réagissez à cette réponse-là?
Oui, ce qui est dit, Mathias, ce qui a toujours été dit par la plupart de personnalités des Nations Unies ou de la MONUSCO. Mais il ne faudrait pas qu'on perde de vue que la mission des Nations Unies, ici à RDC, vient de passer au moins 20 ans. Et au bout de 20 ans, si on n'arrive pas à restaurer l'autorité de l'État, c'est que soit on est en train de tâtonner, soit on ne s'est pas encore décidé pour rétablir effectivement cette autorité de l'État. Je suis d'accord que la RDC, surtout cette partie orientale, souffre de l'absence de l'autorité de l'État. Mais il y a eu des initiatives, aussi bien appuyées par la MONUSCO que d'autres partenaires de la RDC. Mais quel est le résultat auquel on a abouti? Et s'agissant des questions de protection des civils, si on est arrivé à instituer la brigade d'intervention de la MONUSCO, par rapport à l'étude de l'analyse du contexte, malheureusement, on observe que à 6 ans ou à 7 ans d'institution de cette brigade, alors qu'elle devait répondre à ce vœu de restaurer l'autorité de l'État en éradiquant les groupes armés avec ou sans les FARDC, ça c'était la résolution qui créait la brigade d'intervention de la MONUSCO, on réalise que toutes les fois qu'on n'est pas, on n'a pas un résultat à vanter, on dit non, nous sommes une mission en appui au FARDC ou à la police ou au gouvernement congolais. On va avoir de réponses toujours les mêmes, comme l'a dit Mathias, nous sommes là pour accompagner les efforts de la RDC, mais c'est la responsabilité première de la RDC de sécuriser ou de protéger sa population et nous venons en appui.
Merci Omar.
Mais, si on a évité la MONUSCO, nous pensons parce que les Nations Unies se sont rendues compte qu'effectivement la RDC était dans les capacités d'attirer cette mission régalienne de protéger la population, de restaurer son autorité sur l'ensemble du pays. Et donc il faudrait que la MONUSCO comprenne que la population est fatiguée, que la population voudrait aussi bien une réforme, comme on est en train de le souhaiter, des forces armées pour endiguer ces groupes armés, pour être compétitifs face aux nouveaux défis comme la guerre asymétrique à laquelle on est imposé, comme le terrorisme auquel on est imposé. Il faut aussi reconfigurer la force combattante de la MONUSCO.
Merci Omar Kabota. Monsieur Mathias Gilman, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'attentes, n'est-ce pas, de la part de la population par rapport à la mission ou aux missions, n'est-ce pas, de la MONUSCO ici en RDC. Et justement, cette population a aussi donné son point de vue par rapport à ce thème. Et vous allez réagir à ces commentaires d'un auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa.
C'est Chico Bassa, je vous appelle ici à Kinshasa. Malgré que le Conseil des Nations Unies, en complicité avec l'État congolais, ne font que prolonger le mandat de la MONUSCO en RDC, on ne sait pas réellement sa présence dans sa mission lui assignée. Comment pouvons-nous dire que cette organisation a reçu sa mission, car à l'est du pays, la situation sécuritaire n'arrive pas à être maîtrisée. Féliciter le chef de l'État et demander l'appui de la communauté internationale et organisations régionales pour le renforcement des institutions pour le rétablissement de la paix sur l'étendue du territoire national, c'est un souvent de tous les temps dans chaque régime. Et pourtant, la situation est toujours catastrophique.
Mathias Gilman, votre réaction?
Il y a effectivement des attentes énormes de la part de la population, et avec raison, parce que nous avons un mandat qui est très large et très compliqué. Moi, je ne veux pas minimiser les difficultés qui sont les nôtres encore dans les provinces de l'Est, notamment l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Mais je voudrais quand même rappeler que l'année dernière, nous avons fermé 8 bureaux, notamment à Kisangani, à Lubumbashi, à Mbandaka, à Matadi, et que toutes ces zones que nous avons quittées, aujourd'hui, connaissent une relative stabilité et les forces de sécurité nationale sont en mesure d'assurer la sécurité dans ces zones. Donc, on travaille sur la même base pour les Kasaï que nous allons quitter maintenant, pour le Tanganyika que nous quitterons probablement en 2022. Et il reste ces trois provinces où le conflit est extrêmement complexe parce qu'il est tissé dans les communautés. Le député national, M. Mounougo, rappelait le M23. C'est vrai, le M23 était un groupe armé moins diffus et moins sournois, je dirais, que les ADF est plus facilement identifiable. Nous avons maintenant des groupes qui sont en fait dans les communautés, qui sont tissés dans les communautés, et donc c'est pour ça que c'est plus difficile, et c'est pour ça que nous sommes confrontés à une complexité plus grande qui nous demande de travailler à la fois sur la protection immédiate des populations, et il y a des milliers de Congolais aujourd'hui qui reçoivent la protection des caisses bleues, que ce soit dans le haut plateau, que ce soit à Roé, dans le territoire de Djougou. Des milliers de Congolais passent la nuit autour de nos camps et reçoivent et demandent que nous soyons plus présents, que nous soyons plus déployés. Donc nous comprenons effectivement qu'il reste des défis très très importants, notamment dans le Grand Nord et également dans le Petit Nord, dont le député Mounougo est le représentant. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'il y a un travail qui a été fait pour nous retirer progressivement et que nous travaillons à partir. Contrairement à ce qu'on entend parfois, qu'on cherche toutes les excuses pour rester, nous travaillons à partir, mais nous travaillons à partir de manière responsable, durable et progressive, selon l'évolution de la situation sur le terrain et selon le désir évidemment aussi des autorités nationales, des autorités provinciales. Nous allons travailler d'arrache-pied pour pouvoir effectivement remplir notre mandat et pouvoir recentrer nos efforts, nos opérations et nos moyens sur les trois provinces de l'Est. Nous espérons que cela nous permettra de répondre mieux encore aux désirs de la population, aux désirs légitimes de la population pour une vie stable et pacifique.
Maître Juvenal Mounougo Moubi, vous allez aussi réagir à ces commentaires qui viennent de Bukavu au sud de Kivu.
Ikiri Chomba, je vous appelle depuis Bukavu dans la province du sud Kivu. Nous sommes dans un cercle vicié, toujours les mêmes refrains, protection de la population civile et appui à la stabilisation, au renforcement des institutions de l'État, et qu'en sais-je encore. Je pense qu'on doit s'arrêter à un moment et faire un bilan sans complaisance de la MONUSCO au Congo. D'où nous venons, où nous en sommes et où est-ce que nous sommes en train d'aller. À mon avis, la RDC ne peut rien entendre de plus que la MONUSCO n'a pas été capable de faire jusqu'à présent. La RDC doit s'assumer en tant qu'État, sinon elle ne vaut rien en tant que telle. Jusqu'à quand se comportera-t-elle comme un bébé? La sécurité et la stabilité relèvent d'un pouvoir égalien d'un État.
Maître Juvenal Mounoubo.
Il a raison, hein, Monsieur Tchomba, même s'il est un tout petit peu pessimiste, mais il a raison, parce que ce sont presque les mêmes termes qui reviennent chaque année dans les résolutions. Est-ce qu'il n'y a pas eu évaluation? Est-ce qu'il n'y a pas des évaluations qu'on fait? Oui, je sais, sur le plan interne, au niveau de la MONUSCO, des Nations Unies, chaque fois qu'il y a les rapports du secrétaire général ou les rapports du représentant spécial du secrétaire général à New York, eh bien, c'est des évaluations par rapport à ce qu'a été le travail annuel de la MONUSCO. Mais je crois que ce qu'il faut faire maintenant, j'ai parlé lorsque j'ai pris la parole d'une feuille de route, il faut que le nouveau gouvernement instaure un système où il y a des évaluations fréquentes, qu'on essaie un peu de voir les chemins parcourus. Si on convient d'une feuille de route, il faudrait qu'on soit à mesure de dire 3 mois après qu'est-ce qu'on a fait. Par exemple, les ADF Nalu, on peut se donner combien de temps pour mettre fin à ça? Par exemple, les FDLR, ce n'est pas une question qui doit rester éternelle, il faut qu'on y mette fin. Les DDR, il faut à un moment donné qu'on cesse d'en parler et qu'on aille des chiffres en termes de réalisation, des résultats de ces programmes DDR. Sinon, ce n'est que vœux-pieux. Donc, il y a des évaluations qui se font. En tout cas, côté Nations Unies, je peux témoigner de cela. Nous suivons tous l'actualité. Mais il faudrait maintenant des évaluations conjointes entre le gouvernement congolais et la MONUSCO, et des évaluations basées sur une feuille de route qu'il faudra vite convenir avec des indicateurs, avec un chronogramme, qu'on sache dans les 6 prochains mois qu'est-ce qu'on va réaliser. Quel est le sort qu'on réserve, par exemple, aux ADF pour les 6 mois à venir? Quel est le sort qu'on réserve au FDLR pour les 6 mois à venir? De cette façon, on a une action, une gestion plutôt axée sur les résultats, et je crois on peut arriver à mettre fin à ça. Il n'y a pas de la fatalité, hein, il ne faut pas perdre l'espoir et verser dans les pessimismes. Il faut rester optimiste, mais je crois que à l'optimisme, il faut y ajouter l'engagement des différentes parties prenantes.
Et à votre avis, quel appui la RDC peut-elle attendre de la MONUSCO pour rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble de son territoire? Vous avez proposé une feuille de route qui comporterait 3 points, à savoir l'appui à la réforme du secteur de sécurité. Vous avez parlé du DDR, et pour le moment on parle du DDR communautaire. Vous avez parlé aussi, n'est-ce pas, de l'appui au processus des réformes relatives aux élections. À part cette feuille de route, qu'est-ce qu'on peut encore attendre de la part de la MONUSCO pour que la paix puisse être une réalité, pas seulement au nord Kivu, à Ituri, mais dans toute la partie est de la RDC?
Il y a aussi l'échange d'informations. Je sais que la MONUSCO a des capacités pour avoir l'information beaucoup plus facilement même que le gouvernement congolais. Alors il faut livrer toutes sortes d'informations. S'il y a des jeux suspects qui se font le long de la frontière, si les groupes armés bénéficient des appuis des pays voisins, ça peut être le Rwanda, le Burundi ou l'Ouganda, parce que ce qui se passe à la plaine de la Ruzizi, par exemple, dans les hauts plateaux, ou tout comme dans la plaine, les hauts plateaux de Minembwe, ça montre clairement que le conflit dans des pays voisins ou la situation de pays voisins, ça influe négativement, malheureusement, sur les Congo. Alors, le gouvernement congolais a besoin de ces informations à temps réel, des informations utiles. Donc, le partage d'informations ou des renseignements, c'est quelque chose de très important. Je pense aussi qu'il serait mieux que la MONUSCO explique aussi sa mission, parce que je crois qu'elle a été aussi mal comprise. Il faut qu'elle arrive à expliquer ce dont elle est capable de faire et ce qui doit être fait impérativement par le gouvernement. J'aimerais, peut-être avant de terminer, dire 3 choses. Il y a péril en la demeure. Ça, c'est la description que moi je peux faire de la situation. Il y a véritablement péril si on n'agit pas vite. La deuxième chose, c'est que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça, c'est un message qui est adressé au gouvernement congolais. C'est-à-dire la mission de ramener la paix incombe tout d'abord au gouvernement congolais. Donc il ne faudrait pas que les gouvernements congolais et les Congolais pensent que c'est la MONUSCO qui se mettra en première ligne pour assurer la sécurité ou ramener la paix. Un troisième message est adressé à la MONUSCO. Qui peut et n'empêche, pêche. Il ne faudrait pas un jour que la communauté internationale soit traitée de non-assistance à personne en danger. Alors, c'est vrai, il y a les règles d'engagement. Il faut qu'il y ait une planification conjointe, on l'a dit et on l'a souhaité. Mais lorsqu'il y a péril en la demeure, lorsqu'il y a un village qui est en train d'être brûlé et qu'il y a des éléments, des contingents de la MONUSCO qui ne sont pas loin, moi je crois qu'ils peuvent intervenir au nom justement de la protection civile dont a parlé M. Kavota, sans nécessairement recueillir ou attendre une planification avec les FRDC ou un go des FRDC. Et là, on dira effectivement le chapitre 7 est en pleine application et que la MONUSCO est vraiment là pour la protection civile. Il y a eu des situations où ça brûlait, mais on ne savait pas pourquoi la communauté internationale à travers la MONUSCO pouvait attendre que les FRDC bougent ou pour que la MONUSCO intervienne en appui.
Maître Général Mounoubou, nous sommes à la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez déjà donner votre conclusion en deux mots?
La conclusion, c'est qu'il faut qu'on normalise la situation, c'est-à-dire il faut une appropriation sécuritaire, il faut que le gouvernement congolais, il faut que le nouveau gouvernement arrive vraiment à jouer son rôle. Il faut renforcer la formation des FRDC, il faut renforcer les équipements. Nous devons être indépendants sur le plan sécuritaire, parce que à ce niveau-là, ça se pose. On est largement dépendant encore de la communauté internationale.
Merci.
Et c'est possible de le faire. Et puis la population doit appuyer les efforts du gouvernement, parce que sans cet appui de la population, sans relation civilo-militaire, ça va être très difficile.
Merci.
De ramener la paix et de neutraliser les groupes armés.
Merci, Maître Omar Kabota. Vous allez réagir à cette réflexion de Nestor Mwepu qui nous écrit depuis Kananga. Il dit, à mon avis, la prolongation du mandat de la MONUSCO en RDC est salutaire et vaut son pesant d'or, d'autant plus qu'elle contribue non seulement à la stabilité du pays, mais aussi à l'apport de l'assistance financière aux différentes populations touchées soit par la guerre, soit par la famine. Votre réaction, Omar Kabota?
En fait, nous disons qu'on ne peut pas s'opposer à la résolution des Nations Unies. Et ce que Nestor vient de dire, oui, la prolongation de ce mandat de la MONUSCO s'impose parce que les circonstances obligent que cette mission soit encore là au regard des défis auxquels on fait face. Et c'est là que je suis en train de dire que, en principe, les autorités de la RDC doivent opérer un choix. Et il ne faudrait pas qu'on reste de l'ambiguïté. Parce qu'on voit à un certain moment, les politiques parlant du mandat de la MONUSCO, à un moment, ils sont critiques vis-à-vis de la... Quand arrive le moment de proroger ou de ne pas proroger le mandat de la MONUSCO, il souffle au chaud et au froid, et on observe tacitement qu'ils sont pour une prorogation du mandat de la MONUSCO.
Maître Omar Kabota,
les autorités congolaises, oui.
Oui, quel appui la RDC peut-elle attendre de la MONUSCO pour rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble de son territoire?
Alors, quel appui la RDC doit attendre? C'est d'abord de demander à la MONUSCO d'être active aux côtés des FRDC pour en finir avec les groupes armés, en finir avec les mouvements terroristes. Nous ne voudrions pas que cet appui reste seulement logistique. Nous voudrions voir les casques blessés sur la ligne de front. Et donc, c'est très important et il ne faudrait pas qu'il y ait cette libération sur cet appui. Il ne faudrait pas que ce soit un appui qui intervient lorsqu'on force la main.
Merci, je considère ça comme votre conclusion. Monsieur Mathias Gilman, nous sommes à la fin de l'émission. Nous allons vous demander, n'est-ce pas, de conclure en donnant un message pour rassurer toutes ces populations de l'Est qui attendent beaucoup de la part de la MONUSCO. Votre message.
Notre message, c'est que la situation à l'Est nous préoccupe toujours. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous sommes déterminés à continuer à le faire, à essayer de faire tout ce qui est en notre pouvoir. Il y a une volonté sincère chez tous nos personnels, militaires, civils et policiers, d'aider au mieux les populations congolaises, d'aider au mieux les autorités congolaises. Et nous avons besoin de travailler ensemble avec la société civile. Nous avons besoin que la société civile et la population nous fassent des propositions concrètes. Au-delà juste de réclamer de la protection, nous avons besoin qu'eux-mêmes identifient des solutions et soient à nos côtés. Et nous avons besoin, dans le même ordre d'idées, de travailler de la même manière avec les autorités provinciales, avec nos partenaires de l'armée et de la police. Nous avons vraiment besoin d'avoir un partenariat fort, constant et basé sur des initiatives congolaises que nous pouvons soutenir parce que nous pensons que ce sont les Congolais eux-mêmes qui ont la solution pour venir à bout de leurs problèmes et y compris pour rétablir la paix et la sécurité de manière stable et durable au Congo. Nous, on vient en appui, on est déterminés à continuer à aider et à faire tout ce qui est en notre pouvoir, mais nous avons besoin des Congolais, de la population avec nous.
Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à William Lungamba qui était la technique et à Kelly Nkute et Donama Dimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon suite du programme sur Radio Capi.